Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant et la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, sois sans crainte. Le Seigneur est là. Il t'appelle et il t'invite à l'écouter et à le recevoir ici et maintenant. Une vie nouvelle et un cœur apaisé nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Bienvenue à chacun et chacune pour ce temps de culte. Que vous veniez pour la première fois ou que vous veniez régulièrement, soyez ici, chez vous, dans cette maison où nous sommes rassemblés pour nous ouvrir à la présence de Dieu. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent par le biais du site internet ou celui des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres et en particulier avec celles et ceux qui traversent un temps d'épreuve, un temps d'incertitude, un temps de peine et de solitude. Alors, bienvenue aujourd'hui aux enfants et aux jeunes de l'éducation biblique. Bienvenue à toute l'équipe des monitrices qui entoure ces jeunes. Et bienvenue à toi, Béatrice. Mais si, il n'y a pas de raison. Parce que tu assureras tout à l'heure le mini-culte avec les enfants. Et bienvenue aux parents, aux familles et à vous tous. Bienvenue et merci tout particulier à Sacha Dénin qui nous accompagne à l'orgue ce matin. Et enfin, bienvenue et merci au chœur de l'oratoire dirigé par Alexandre Korovitch. Nous suivrons la liturgie de ce culte pour ce dimanche. Vous la trouverez au début du psautier français. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier répond. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Avec le psalmiste, nous louons Dieu. Éternel, ta présence est comme une pluie qui tombe sur un terrain moissonné, comme des ondées qui arrosent la campagne. Tu es promesse de vie au cœur même de l'aridité de notre vie quotidienne. Éternel, ta parole nous affranchit de l'oppression et de la violence. Car dans l'assurance de ton amour pour le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide, nous trouvons les mots pour te confier notre peur et notre espoir dans la promesse du règne qui vient. Nous puisons la force de choisir pour nos vies les chemins de la justice. Dans la certitude de ta fidélité, nous recevons l'audace de rencontrer et de témoigner. Merci. Ô Éternel, pour nos yeux et nos cœurs qui s'ouvrent à la simplicité de tes dons et pour la joie qui nous illumine. Car c'est par elle que ton règne s'avance parmi nous et que tous les rois se prosterneront devant toi et que toutes les nations te serviront. Frères et sœurs, je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 95b. 95B. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 4. Prenez place. Mes amis, vous avez été certainement sensibles au rythme de ce psaume qui nous a, je dirais, embarqués dans la musique. Je vous rappelle que une fois par mois, le dimanche, vous pouvez retrouver cet élan de chanter les psaumes avec le chœur de l'oratoire à 10h. Ça vaut pour les petits, les moyens et les grands. Alors écoutons maintenant ce que Dieu nous donne la force de faire. À l'un des scribes qui demandait à Jésus quel était le plus grand commandement, Jésus répondit : Voici le premier. Écoute, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Autrement dit, dans cette semblableté, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Je vous invite à la prière. Éternel, Dieu de la vie, les jours où tout est dur, donne-nous le courage de continuer. les jours où tout semble compliqué, donne-nous la simplicité de te demander ton aide. Les jours où nous sommes dans l'impasse, donne-nous la force d'inventer des chemins. Qu'au milieu des difficultés, nous sachions voir les belles choses, les bonnes volontés et les solutions les plus improbables, mais les plus justes. Éternel, il n'était écrit nulle part que ce serait facile de vivre, mais partout, il est écrit que tu ne nous laisses jamais tomber, nous, tes enfants bien-aimés. Amen. Pour accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'éloigneraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, et je te garde ma fidélité, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, nous confessons notre foi. Avec Jean-Baptiste, voici l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. Avec les Samaritains, nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Avec le centurion, cet homme était véritablement fils de Dieu. Avec Marthe, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le fils du Dieu qui devait venir dans le monde. Avec Jean, il est la lumière véritable qui éclaire tout homme. Avec le père de l'enfant malade, je crois, Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Amen. Thank you. gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Prenez place. Alors nous allons lire ce matin un extrait du livre des Actes des Apôtres. Ensuite, les enfants seront invités à partir du temple, mais pas pour aller très loin, pour aller dans la salle mono, de la maison presbytérale avec les monitrices et Béatrice pour continuer leur formation à peu près sur ce même texte que nous allons découvrir. Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit : Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit : Quel baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent : Le baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous surprend, ta parole curieuse, parfois, souvent, mais qui nous rejoint là où nous en sommes. Amen. Dans le recueil Louange et prière, nous allons prendre maintenant le chant du cantique 193 qui s'intitule « Parle ». Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever.
les places.
Et j'invite les enfants à rejoindre la maison presbytérale avec les monitrices et Béatrice. Voilà. Et je vous invite à la prière. Qui es-tu, douce lumière, qui m'inonde et éclaire la nuit de mon cœur? Tu me guides avec ta main maternelle. Si tu me lâches, je n'avancerai plus, même d'un seul pas. Tu es l'espace qui environne mon être et dans lequel tu te caches. Si tu m'abandonnes, je tombe dans l'abîme du rien où tu m'as appelé à l'être. Tu es plus proche de moi-même que moi, plus intime que mon intime même, et pourtant, personne ne te touche ni te comprend. Et aucun mot ne peut t'emprisonner, Esprit Saint, éternel amour. Amis, frères et sœurs, En ce dimanche d'éducation biblique, nous continuons la lecture des Actes des apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes devant un curieux texte. Nous découvrons un texte dans lequel Paul rencontre de nouveaux disciples à Éphèse, des disciples qui ont reçu un enseignement donné par Apollos. Paul et Apollos. Nous connaissons ces mots, ces noms, mais qui sont ces deux hommes? Ce sont deux apôtres, deux personnes envoyées, deux envoyés. Aujourd'hui, on dirait que ce sont des évangélistes ou des évangélisateurs. Ils partent d'une région vers une autre, de ville en ville, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils annoncent, ils expliquent la bonne nouvelle, l'Évangile. Alors commençons par Apollos. Apollos, nous trouvons cet homme au chapitre précédent, au chapitre 18 du livre des Actes. C'est un juif originaire d'Alexandrie, un homme savant, en ce sens qu'il connaît les Écritures. Aujourd'hui, on dirait que cet homme est bibliste. En tout cas, c'est par la connaissance des textes qu'il reconnaît Jésus comme le Christ, le Messie. Et c'est par l'étude des textes, mais aussi par la prédication de ces textes, qu'il transmet ce qu'il croit. C'est un homme qui est informé sur la voie, V-O-I-E, du Seigneur, qui est la manière initiale de désigner les tout premiers chrétiens. Paul, lui, est un homme différent qui a une toute autre expérience du Christ. Il ne connaît pas du tout le Jésus historique, mais il croit en Jésus ressuscité, dont il a fait la rencontre d'une façon inoubliable sur le chemin de Damas, une rencontre qui l'a terrassé, qui l'a mis à terre, qui l'a retourné totalement, puisqu'il était un persécuteur, justement, des adeptes de la voie du Seigneur, et qu'après sa rencontre fulgurante avec le Christ, il deviendra un de ses disciples les plus zélés, les plus fidèles, un apôtre particulièrement consciencieux et infatigable dans l'annonce de l'Évangile. Et c'est lui qui encouragera et soutiendra les communautés chrétiennes naissantes. Ces deux hommes forment une sorte de binôme et circulent entre Éphèse et Corinthe. Ce sont aussi deux personnalités complémentaires. Paul, pourtant théologien, philosophe, comprend les expériences spirituelles sensibles, émotives de la foi. Et Apollos, en quelque sorte, vient équilibrer les émotions spirituelles par la connaissance des textes, la raison, l'explication, la réflexion. Lorsque Paul arrive à Éphèse, Apollos, lui, est à Corinthe. Et Paul rencontre des disciples formés par Apollos. Et le livre des Actes parle longuement de l'évangélisation de Paul à Éphèse, qui est un des plus grands carrefours commerciaux et religieux du monde gréco-romain. Le séjour de Paul va durer un peu plus de 2 ans, pendant lesquels il écrira probablement sa première lettre aux Corinthiens, peut-être aussi sa lettre aux Philippiens et sa lettre aux Galates. Mais tout d'abord, il arrive à Éphèse. Et il pose une question surprenante aux disciples d'Apollos. Il leur demande s'ils ont reçu l'Esprit-Saint au moment où ils sont devenus croyants. Que faut-il comprendre? Lorsque ces hommes ont fait la démarche pour rejoindre les adeptes de la voie du Seigneur, convertis en quelque sorte par l'annonce de l'Évangile et le témoignage d'Apollos, ils ont demandé à être baptisés. Or, il semble bien qu'Apollos ne baptisait qu'à la manière de Jean le Baptiste. Et quel était le baptême de Jean-Baptiste? Il annonçait le pardon des péchés. Il annonçait simplement que Dieu est pardon. Certes, on pouvait supposer que l'annonce de Jean-Baptiste pouvait impressionner celles et ceux qui l'écoutaient par son côté apparemment radical. Mais sa prédication était cependant une bonne nouvelle, en ce sens qu'en plongeant les personnes entièrement dans l'eau, ce qui est le sens étymologique du verbe « baptiser », elles étaient lavées de leurs fautes, et le geste de son baptême purifiait spirituellement les personnes qui prenaient au sérieux le fait de changer de comportement. Mais Jean-Baptiste annonçait aussi autre chose. Il annonçait que celui qui viendrait après lui, à savoir Jésus le Christ, baptiserait dans l'Esprit Saint. « Moi, c'est d'eau que je vous baptise, » disait-il. « Mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » On pourrait dire aussi « il vous baptisera dans le souffle et dans le feu », ce qui n'est pas sans rappeler le phénomène du vent violent et des flammes de feu qui se sont déposées sur les disciples le jour de Pentecôte, manifestant ainsi le don de l'Esprit Saint promis par le Christ lors de son ascension. Apollos baptisait du baptême de Jean comme s'il ne savait pas qu'il y avait eu la Pentecôte, d'où la question surprenante de Paul à ses hommes. Encore plus surprenante est la réponse de ces hommes qui déclarent ne jamais avoir entendu parler de l'Esprit Saint. Alors là, c'est vraiment tout à fait curieux, cette réponse quand même pleine d'humour. Parce que par la connaissance qu'ils ont des textes grâce à Apollos, on peut tout de même supposer que ces hommes savent ce qu'est l'Esprit Saint. En revanche, on peut supposer qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils n'ont pas encore entendu parler de l'événement de la Pentecôte raconté au tout début du livre des Actes. Alors mes amis, qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire ? Qu'une manière nouvelle de baptiser est en train de se mettre en place. Et il semble que ce soit Paul qui soit en train de l'inaugurer. Il s'agit du baptême en la personne de Jésus. Alors là aussi, c'est tout à fait curieux. Parce que si Jean-Baptiste plongeait les gens intégralement dans l'eau, Jésus, lui, ne baptisera personne d'aucune manière. Il se fera baptiser par Jean, mais lui ne baptisera pas. Mais il demandera à ses disciples de le faire, ce que nous appelons, nous, aujourd'hui, le fondement du baptême. En fait, Jésus avait sa manière personnelle d'accompagner les personnes qu'il rencontrait. Il rencontrait tout le monde, les malades comme les bien portants, les collecteurs d'impôts et les prostituées comme les pharisiens et les gens éminents, les samaritains comme les juifs. Sa prédication est audacieuse, présentant un Dieu et une humanité pensés ensemble dans une forme de réconciliation. Il incarne cette bonne nouvelle, cet évangile, faisant passer l'amour premier et libérateur avant la rigidité de la loi. Il rappelle par exemple que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et Jésus réinterprète les Écritures afin que personne n'en soit exclu et ne soit exclu de l'amour de Dieu, quel qu'il soit. Et Paul, d'ailleurs, est au bénéfice de cette expérience qui lui-même l'a profondément bouleversée. Alors, lorsque Paul parle à ses hommes du baptême en Jésus, il prolonge en quelque sorte l'annonce faite par Jean le Baptiste de quelqu'un qui baptiserait dans l'Esprit Saint et le feu. Et Paul invite les disciples d'Apollos d'aller plus loin que le baptême de Jean. Il propose de croire en Jésus et de plonger littéralement chacun dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire, sinon ? De plonger carrément dans la vie de Jésus, dans l'amour de Jésus et de s'en imprégner complètement. Le texte ne précise pas si Paul a baptisé ces hommes avec de l'eau. C'est possible. Et dans ce cas, ce serait un rebaptême. Mais, me semble-t-il, ce que nous sommes d'abord invités à comprendre, c'est d'être plongés spirituellement dans le nom de Jésus, c'est-à-dire d'être immergés dans sa parole, mais aussi dans la foi qui animait Jésus, dans la vérité qui s'en dégage. D'être plongé dans un élan créateur qui sans cesse nous éveille et nous relève pour une vie nouvelle. C'est être plongé dans son amour qui restaure et qui encourage à traverser dans la confiance toutes nos zones d'ombre, toutes nos traversées du désert, tous nos ravins de mort. C'est être plongé dans sa vie qui nous ressuscite. Rien de magique, seulement être plongé dans sa façon à lui d'aimer. Ceci dit, ce n'est pas rien. Et cela ne peut être en aucun cas quelque chose de superficiel. Et pour que cela ne le soit en aucune manière, Paul fait un geste très ancien dans le judaïsme. Il impose les mains sur les hommes. Il pose ses mains sur la tête de ces hommes. Rien de magique là non plus. C'était le geste que faisait le père sur la tête de son enfant quand il devait partir vivre ailleurs. Il recevait alors une bénédiction et un envoi, un projet à vivre et une énergie pour l'accomplir. Et c'est ce geste que nous faisons à chaque baptême, à chaque mariage, à chaque confirmation ou à tout autre moment de la vie de quelqu'un qui le souhaite. Ce geste est fait aussi à la fin de chaque célébration, chaque culte, de manière symbolique lorsque l'officiant étend ses mains sur l'assemblée, sans toucher concrètement la tête de chacun, cela va de soi, mais le sens est exactement le même. Être béni et partir, retourner quelque part dans le monde qui est le nôtre pour accomplir notre mission, notre tâche. Et chacun peut vraiment recevoir ce geste pour lui-même. C'est aussi un signe qui nous dit que c'est avec notre foi, si petite soit-elle, notre foi en Dieu, que nous accomplirons notre mission. Alors dans notre passage des Actes, il y a encore cette précision qui ne laisse personne indifférent. Quand Paul impose les mains sur les disciples, l'Esprit Saint vient sur eux, nous dit le texte. Comment le reconnaît-on ? Les disciples parlent en langue et ils prophétisent. Comme si, dans le livre des Actes, eh bien, cette effusion ne pouvait pas passer par autre chose que l'extraordinaire. Et pourtant, cette effusion de l'esprit ne peut que être concrète, que spectaculaire, pour bien faire comprendre au lecteur ou à l'auditeur, le côté extraordinaire de la situation. Ces hommes, à leur tour, font l'expérience de cet esprit dont ils ignoraient jusqu'à l'existence au début de notre texte, quand même. Ils sont baptisés dans l'esprit, c'est-à-dire qu'ils sont littéralement plongés dans l'Esprit Saint, dans l'Esprit de Jésus. Et c'est ainsi que la promesse de Jean le Baptiste, « Celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu » est en train de se réaliser. Être plongé dans l'esprit, c'est être plongé dans l'esprit de Dieu, que certains appellent le dynamisme créateur. C'est tellement difficile à expliquer que le livre des Actes nous délivre des images spectaculaires pour nous faire prendre conscience de l'importance de ce qui se passe, mais qui ne se voit pas. Et être plongé dans l'esprit, ce n'est pas forcément prodigieux ou fantastique, ce n'est pas forcément une expérience mystique impressionnante. Et au fond, c'est la suite logique de ce baptême en Jésus dont nous parlions à l'instant. Si le baptême en Jésus conduit à s'imprégner totalement de sa vie, alors le baptême dans l'esprit conduit à être imprégné de son souffle. de la même façon que Jésus a soufflé sur ses propres disciples le soir de la résurrection en leur disant « Recevez l'Esprit Saint ». Mais le souffle, vous allez me dire, mais nous l'avons déjà reçu à notre naissance, puisque nous respirons, c'est le même. Alors recevoir l'Esprit Saint, c'est recevoir un supplément de souffle, un supplément d'inspiration, dans tous les sens du terme, pour que nous vivions une vie humaine et spirituelle en progression, c'est-à-dire tirée vers le haut, vers le ciel, tout en restant bien enracinés les pieds dans la terre de notre humanité, en gardant ce que nous disons les pieds sur terre. Dans cette réconciliation inaugurée, je le crois profondément, par le Christ. Alors, finalement, est-ce que ce n'est pas ça que nous disons ou que nous manifestons lorsque nous sommes baptisés ou que nous baptisons, ça dépend de quel côté du baptistère on se trouve, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon le commandement du Christ dans l'Évangile de Matthieu? Chaque personne, enfant ou adulte, reçoit ce geste du baptême avec un peu d'eau sur son front, une parole qui accompagne, une imposition des mains qui bénit et qui envoie en mission. L'Esprit Saint est là, à chaque instant. Personne ne peut mettre la main sur lui et surtout sur la façon qu'il a ou qu'il aura de se manifester dans la vie de chacun. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, prenons le temps de faire le point avec le baptême que nous avons peut-être reçu. Si ce baptême est resté dans notre mémoire comme un simple rituel à l'état de simple mot, M-O-T-S, essayons de voir comment nous allons mettre de la vie dans ces mots pour en vivre pour de vrai. Regardons encore dans notre quotidien comment l'Esprit Saint ne cesse d'agir. Chaque fois que nous sommes libérés de toute peur ou de tout esclavage, quel que soit son nom, chaque fois que nous nous sentons appelés à une vie nouvelle, chaque fois que la confiance a surgi dans le doute ou le courage quand nous avions peur, ou le réconfort lorsque nous étions dans la souffrance. Être baptisé dans l'Esprit, eh bien, c'est aujourd'hui se souvenir avec les termes de notre liturgie de baptême, comme l'eau tombant sur le sol desséché fait germer la plante et fait porter des fruits. Ainsi, le Saint-Esprit fait jaillir en l'être humain une vie nouvelle, une vie ouverte à Dieu et aux autres, avec, au lieu de l'incrédulité, la foi, au lieu de la résignation, l'espérance, au lieu de l'égoïsme, l'amour. Alors c'est un chemin à parcourir qui peut nous emmener très loin, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et pour toute notre vie, jusqu'à son dernier souffle. Et cela a commencé il y a bien longtemps à Éphèse, avec Paul et 12 hommes environ, symbolisant les 12 nouveaux disciples ou apôtres de l'Église qui était en train de naître. Et leur témoignage est arrivé jusqu'à nous aujourd'hui, non pas pour qu'ils nous berce dans des illusions ou dans un cocooning, mais pour que nous en vivions vraiment et qu'à notre tour, chacun à notre manière, avec ce que nous sommes, nous le transmettions. Amen.
Thank you.
Dans le recueil Louanges et prières, je vous invite à prendre maintenant le numéro 163, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever. Prenez place. Et je cède la parole à Jean-Luc Buisson qui va nous conduire dans les annonces de cette semaine.
Bonjour à tous. C'est une semaine riche qui commence assez classiquement par le lundi avec l'atelier de peinture avec Anne Jenkins et puis le grec biblique avec Anne Velty. Ce lundi pour deux groupes, le groupe des progressants et le groupe des débutants. Le mardi 10 octobre, un concert à 20h au Temple, l'intégrale des concerti grossi de Handel par les musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski, qui est un fournisseur régulier de concerts à l'oratoire. Le mercredi 11 octobre, réunion du groupe biblique œcuménique de 19h à 20h30 à l'oratoire du Louvre, cette fois-ci, sur le thème « À la découverte de l'évangile de Jean » avec la pasteur Agnès Abitschefer et le père Yves Trocheris, curé de Saint-Eustache. Jeudi 12 octobre, pause spirituelle, c'est la pasteur Béatrice Cléromazir qui assurera la pause spirituelle ce jeudi, de 12h à 13h30 au Temple. Le chœur de l'oratoire répète et recrute tous les jeudis de 9h30 à 22h en salle mono. Il recrute sur audition, donc venez vous présenter le jeudi en salle mono pour prendre contact avec le chœur et avec son chef. Un nouveau concert le jeudi à 20h30, d'un concert de production des concerts Philippe Maillard, les The Talis Scholars, avec un programme allant de la musique de Hildegard von Bingen au XIIe siècle à la musique contemporaine d'Arvo Pärt. Samedi 14 octobre, une nouveauté pour cette année 2023-2024, le premier brunch libéral de l'Oratoire du Louvre, de 10h à 12h30 avec la pasteur Béatrice Cléromazir et son invité, le pasteur Christophe Cousinier. Le pasteur Christophe Cousinier nous vient des Vallées-Sévenoles, il est rédacteur en chef d'Évangile Liberté et il a donné une prédication à l'Oratoire le 4 décembre dernier. Donc c'est une occasion de le revoir et d'approfondir notre relation avec lui et avec le thème de la rencontre, le libéralisme et la réforme. Dimanche 15 octobre, dimanche prochain, culte avec les pasteurs Agnès Daudet et Ingrid Pratt qui nous viennent aussi des Cévennes, du Piémont des Cévennes. Donc une semaine un peu cévenole pour la semaine qui vient.
Et j'en profite pour dire que du 12 au 15 octobre, je partirai dans le sud, du côté de Sète. C'est pas les Cévennes, mais c'est pas loin. Pourquoi je vais là-bas? Parce qu'il y a le Rassemblement national des aumôniers de prison, et je suis moi-même aumônier des prisons, à la santé en particulier. Et donc, nous allons passer 4 jours, du jeudi au dimanche, sur plusieurs thèmes concernant la justice et l'accompagnement des personnes détenues. Voilà.
Et ça explique son absence jeudi
prochain. Le jeudi à la pause, et je ne serai pas là non plus dimanche prochain, puisque nous aurons un culte en commun à 7, là-bas, au Lazaret. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là, mais je suis quand même là, hein. J'appelle à l'offrande, oui. Alors, frères et sœurs, c'est maintenant le moment de l'offrande. Alors, dans l'offrande, nous désignons notre aide solidaire sur le plan financier pour que notre Église et toutes les activités qui existent subsistent grâce à vous. Notre Église ne vit que de dons, les nôtres, tous ensemble. Que chacun donne ce qu'il a décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, et l'offrande d'aujourd'hui est destinée à la vie de l'Église. Permettez-moi d'adresser un merci reconnaissant au chœur de l'oratoire et à Sacha qui accompagne ce chœur pour aujourd'hui, pour cette interprétation de la messe de Gounod. Merci. Je vous invite à la prière les uns pour les autres. Éternel Dieu de la vie, nous voici maintenant devant toi dans la vérité de nos vies. Nous voulons prendre quelques instants si courts, mais si intenses, pour te présenter notre monde en souffrance, partout où l'on regarde. Partout où l'on regarde, nous ne savons plus quoi faire, quoi penser. Nous ne savons plus quelle décision prendre. Nous nous sentons impuissants. Mais peut-être est-ce parce que nous ne comptons que sur nous-mêmes. Alors, notre intercession sera aujourd'hui pour toutes les personnes, toutes les familles endeuillées, quelle que soit la façon dont la mort est arrivée, que ce soit les raisons climatiques, que ce soit la Méditerranée, que ce soit les attentats, la guerre. Nous te présentons toutes ces personnes en souffrance, terriblement en souffrance. Nous prions également pour celles et ceux qui traversent des périodes de solitude, d'interrogation, de remise en question. Nous te remettons les personnes qui ont du souci pour leur propre santé, une inquiétude pour l'avenir, pour leur famille, pour leurs enfants. Nous te présentons aussi celles et ceux qui, sur leur lit d'hôpital ou sur le lit de leur prison, pensent qu'il n'y a plus personne qui pense à eux. Alors nous qui avons cette chance d'avoir la liberté d'aller et venir, d'avoir l'opportunité de militer, de s'engager, de lutter contre toutes les formes d'injustice, nous t'en prions, éternel Dieu de la vie, Dieu d'amour, remplis-nous de ton esprit chaque jour. Maintenant, afin que nous recevions de toi le discernement nécessaire pour chaque situation, que nous recevions la force de dire les mots qui consolent, ceux qui ouvrent à la vie, à la réconciliation, à la confiance, à l'espérance. Nous te demandons chacun à notre manière ta présence, presque sensible, presque palpable, dans chacune de nos vies. Éternel Dieu de la vie, il n'y a pas de prière bonne ou mauvaise, petite ou grande, il y a juste celle qui vient de notre cœur et que nous rassemblons maintenant dans celle que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors voici la parole d'envoi qui sera peut-être votre mission, si vous l'acceptez, pour cette semaine. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune d'entre nous. Qu'il nous garde ensemble dans son amour et qu'il nous bénisse, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et je vous souhaite un très beau dimanche.